Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Et si j'applique à ma vie et mes projets les mêmes principes que dans mon assiette? Allez, je vous explique tout ça, c'est parti. Bonjour, bonjour mes champions et mes championnes, c'est Bertrand, j'espère que vous avez la forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous. Bienvenue dans Cheveux Blancs, Idées Longues, le podcast dans lequel on parle de création de contenu, d'entrepreneuriat, de comment on peut développer du contenu, même quand on a 40 ans et plus, même si on n'a jamais fait ça, mais qu'on a une furieuse envie de partager son expérience, hein, et comment on fait tout ça, le marketing, l'entrepreneuriat, l'organisation, l'état d'esprit, puis la forme, la santé aussi. Oui, c'est un petit peu lié aussi aujourd'hui, un petit peu parce que vous savez que moi j'ai un bon parcours de changement de vie, hein, avec perte de poids, reprise du sport, des formations préparation mentale en nutrition. Et il y a un truc que j'ai appris, mais très très trop dans mon parcours, c'est la composition de mon assiette. Et je vais vous parler de ça, parce que vous savez que dans ces épisodes qui sont des carnets de bord, je fais le bilan, je vous parle des coulisses, des stratégies que je mets en place, mais il y a un élément qui m'interroge, qui me pose beaucoup de questions en ce moment, tout simplement. C'est comment simplifier les choses. Comment simplifier les choses? Et c'est là que je me suis rappelé que dans mon assiette, j'avais une règle qui était assez simple, et qui est facile à comprendre. Et quand je la partage en coaching, tout le monde la comprend. Moi, je l'ai comprise, tout le monde la comprend. Je me dis qu'elle doit pouvoir marcher pour autre chose que mes assiettes. Je vous explique le truc. L'idée, c'est tout simple, c'est que dans les règles alimentaires, j'ai une règle très importante, c'est que ne jamais doubler une famille d'aliments. Je vous explique le principe, c'est que on a dans nos aliments, on a des féculents, hein, type pâtes, pain, riz, des choses comme ça. On a des protéines, on a des laitages, on a des fruits, on a des légumes. Voilà, toute la famille comme ça, de choses comme ça. Bon, la règle est simple, c'est que si on a mangé par exemple du pain en entrée, c'est un féculent. Eh ben, on n'a pas le droit de manger un autre féculent dans la suite du repas. Ça veut dire que si je mange, par exemple, du pain en entrée, je peux pas manger de pâtes en plat principal ou en accompagnement de mon plat principal, et je peux pas manger ce petit gâteau au chocolat qui me fait tant envie en dessert. Bah voilà, c'est la règle. Et c'est pareil, hein, si on veut dire, par exemple, si vous avez un petit peu un doute entre fromage et dessert, ben, ou dessert, vous pourriez dire, bah, si je prends du fromage, je peux prendre un dessert à condition que ce soit pas un laitage. Si j'ai envie de me faire une grosse plate de pâtes, j'évite de patienter en attendant que les pâtes sont cuites en mangeant du pain. Voilà, et puis une fois que j'aurai mangé mes pâtes, je mange pas de gâteau ou de je ne sais pas quoi. Donc le truc, il est simple, la règle, elle est simple, hein, très très simple de cette manière-là. Bon, il y a un truc sur lequel on peut un petit peu changer, c'est les légumes, hein, voilà, bah, on peut faire crudité en entrée, légumes en plat principal, enfin voilà, tout ça, ça à limite, c'est pas très grave. Mais c'est super important sur les féculents, sur les laitages, des choses comme ça, où il y a des trucs qui se cachent un petit peu, des petits pièges, des petits sucres cachés, tout un tas de trucs comme ça. Bon, bref, maintenant que vous avez compris le principe, je me suis dit, mais est-ce que je pourrais pas faire la même chose pour mon business, mon activité, ma présence en ligne? Et alors, ça serait quoi? Ça veut dire de pas doubler ma présence sur un même réseau ou un même outil. Si j'y suis une fois, je n'ai pas le droit d'être une deuxième fois. Ah, qu'est-ce que ça signifie cette histoire-là? Allez, je vous explique. Bah, par exemple, ça serait d'avoir un seul compte Instagram et pas plusieurs. Bah oui, alors vous savez qu'en plus, hein, j'ai commencé à faire un deuxième compte Instagram, podcaster pro et tout. Et puis déjà, il m'ennuie un petit peu. Enfin, je me dis, oh là là, j'ai passé beaucoup de temps à développer mon compte Instagram principal. J'ai plus de 11 000 abonnés. L'idée, ça serait d'arriver à 12 000 d'ici la fin de l'année. Hein, donc, il reste quelques semaines. Ça me demande de l'énergie, je fais des reels, je fais des posts, je réponds aux stories, je fais plein de choses comme ça, ça me permet de nourrir mes contenus. Est-ce que franchement, je vais repartir avec un compte où j'ai 70 abonnés, tout, est-ce que ça serait pas de l'énergie un petit peu gâchée, qui part un petit peu en l'air, en fumée, etc. Donc je me dis, bon bah finalement, est-ce que je pourrais pas avoir un seul compte Instagram? Un seul compte Instagram. Et puis je me dis que je pourrais avoir un seul site internet, une seule newsletter, une seule base mail, hein, par exemple. Pas plusieurs bases mail comme j'avais, parce que jusqu'à maintenant, j'avais des mails des gens qui voulaient télécharger mon lead magnet, et puis j'avais des gens qui étaient abonnés sur mon Substack pour ma lettre du Vire Galopant du dimanche. Et puis j'en avais même d'autres, hein, potentiellement, j'avais un Substack aussi Podcaster Pro, enfin voilà, tout un tas de trucs qui étaient un petit peu à droite à gauche, comme ça. Bon, bah, si je suis la règle, ça voudrait dire que je n'ai plus qu'une base mail. Plus qu'une base mail. De même pour le site internet, d'avoir un site internet. Bon, ouais, c'est un petit peu compliqué, mais on va voir qu'il y a une petite variante. Et puis aussi, un seul espace de formation réunissant toutes mes formations, mais aussi, un seul espace en ligne à gérer dans lequel, bah, finalement, plutôt que d'avoir à gérer plein de présences à droite à gauche, si j'avais seulement un endroit où je pouvais gérer, par exemple, rassembler les formations, la communauté, le mail, etc. Bon, la grande magie de tout ça, c'est que ça, c'est possible et que j'ai commencé à le faire. Alors, comment j'ai commencé à le faire? Eh bien, tout simplement, déjà, en regroupant hein, tout ce qui est mail, qui est avant sur MailerLite, formation, qui est avant chez Kuneo, et bientôt la communauté, qui était chez Mighty Networks. Je vais tout réunir, tout ça, dans un seul espace, qui est Podia. Tout simplement, pourquoi? Parce que Podia me permet d'héberger mes formations, me permet d'héberger aussi la communauté, et me permet de gérer mes mails, d'envoi de mails. Et je peux héberger dessus mes lead magnets. Donc, même mon site est un petit peu en jachère en ce moment, mon blog, et pourtant il y a des années de contenu dessus. C'est pas que je veux l'arrêter, hein. Franchement non, mais je me dis qu'avoir le site, plus avoir l'espace à côté dans lequel les gens pourront avoir mes formations, les lead magnets, s'inscrire pour les mails, avoir accès à la communauté, tout ça à un seul endroit, un seul login pour récupérer tout, pour se contacter, pour communiquer, pour échanger avec eux, etc. Je me dis, ça serait quand même pratique. Certes, si on prend Podia, sur chaque élément de Podia, tout n'est pas la perfection. Franchement, dans toutes les autres plateformes, on trouve mieux. Hier, par exemple, j'ai fait mon export de mon chiffre d'affaires de Podia. J'ai dit, ouh là là, Kuneo, sur l'export, était quand même plus facile, c'était plus simple, etc. Là, c'est un peu le bordel. Les tunnels de vente, par exemple, Podia, c'est pas les plus forts Podia sur le tunnel de vente, mais il y a la simplicité. Même chez Kuneo, je pouvais faire un petit peu mieux dans les tunnels de vente. En revanche, par exemple, l'interface de gestion, l'interface d'administration, la création des pages de vente est bien plus belle dans Podia que sur Kuneo, que ce que je faisais sur Kuneo. La gestion des mails aussi, c'est pareil. MailerLite, il y avait des fonctionnalités de mail qui étaient beaucoup plus avancées, de l'A/B testing, des trucs qui sont plus, on peut aller beaucoup plus loin dedans. Mais il y avait un truc qui était plus compliqué à gérer, c'est que quand quelqu'un achète une formation dans un côté, que je voulais envoyer des mails, il fallait que je fasse des transits d'inscription de mails. Encore ça, c'était assez simple. Mais surtout, pour suivre, savoir si un mail avait permis de faire des ventes, et ben, il fallait faire des petits calculs régulièrement, etc. Là, le gros avantage en Podia, c'est que j'envoie un mail, je sais combien de personnes ont cliqué sur les liens, je sais combien de personnes ont acheté grâce au mail, ça montre les mails les plus rentables, ça montre si mon tunnel de vente est rentable, même s'il n'est pas parfait. En tout cas, j'ai beaucoup d'éléments qui me permettent hein, de dire, bah, en étant rassemblé, je gagne du temps sur pas mal de choses. Là où j'ai gagné beaucoup de temps, c'est sur mes pages de vente. Maintenant, créer une page de vente est très rapide puisque je crée mon programme sur Podia, je crée la page de vente qui va avec, c'est directement en ligne, je peux faire le coupon de réduction. Avant, qu'est-ce que je m'embêtais sur les coupons de réduction? Enfin, je mette le coupon de réduction chez Kuneo, que je le paramètre dans la boutique, que je le mette sur mon site, que j'aille modifier les boutons, que j'aille faire des trucs, je peux pas avoir les prix barrés, enfin, vous avez compris le bordel. Maintenant, je crée un coupon, je mets un URL, Podia s'occupe de tout, des prix barrés, de tout ça, etc. Ça marche extrêmement bien et c'est beaucoup plus efficace. D'ailleurs, c'est un constat, je peux pas vous donner le chiffre là parce que je l'ai pas sous les yeux, mais mon chiffre d'affaires sur le mois de septembre et sur le mois d'octobre est largement supérieur en formation que ce que j'ai fait sur le reste de l'année. Ça veut pas dire que tout est parfait, hein, parce que j'ai aussi lancé des programmes et autres, mais il y a une plateforme qui était plus simple à gérer, j'ai pu faire plus de promotions, j'ai pu plus axer certains éléments, et je me rends compte que les résultats ont été bien plus intéressant. Et bon, bien sûr, attention, c'est que là, on est au mois de novembre, et que quand je regarde le chiffre du mois de novembre, je vois que j'ai beaucoup de retard, qui s'explique aussi par une gestion un petit peu du temps, de mémorisation, qui est un petit peu bancale, ce qui explique d'ailleurs que ce podcast ne sorte pas toujours le même jour. Voilà, ça, il y a des choses comme ça. Donc, je me dis que cette histoire, quand même, sur le plan de l'efficacité, hein, de n'avoir plus que, dans mon assiette de business, de gestion de site, etc., plus qu'un seul élément, comme ça, bah, finalement, ça me simplifie énormément la vie. Hein. Et puis, ça va vraiment répondre à certaines questions. Du style, et si je crée un nouveau compte Instagram? Bah non, t'as déjà un compte Instagram, t'en crées pas d'autre. Et si je crée, je sais pas, un nouveau compte sur deux mails ou je sais pas quoi pour faire un nouveau projet? Bah non, t'as déjà ça et tout. Ça va répondre à plein de questions, à plein de... Ça me permet de trancher dans plein de choses, en fait. Hein, vraiment de trancher dans plein de choses. Bien sûr, il y a des choses qui restent en suspens, qui sont pas si faciles que ça. Par exemple, j'ai deux chaînes YouTube. Il y a la chaîne YouTube Bertrand Souly, il y a la chaîne YouTube du Hamsters Running Club. On n'est pas tout à fait quand même sur les mêmes segments, sur les mêmes thématiques, sur les mêmes niches, comme on dirait. Là, je pense que les deux, c'est mieux qu'elles soient en séparé, même si les deux sont liées, parce que dans l'une, je mets les vidéos de l'autre, et même si des fois, je me dis que finalement, hein, ma chaîne perso Bertrand Soulier serait peut-être plus adaptée à ce que je mette de tout dedans. Je ne sais pas, c'est en tout cas une question que je me pose. Mais les deux grossissent, alors pas très rapidement, hein, ils gagnent quelques abonnés et tout, mais j'ai des commentaires sur l'une et sur l'autre. C'est ça le problème, c'est que j'ai des commentaires sur l'une et sur l'autre, j'ai des vidéos qui marchent sur l'une et sur l'autre, et j'ai des vidéos qui marchent pas sur l'une et sur l'autre. Bon, trancher entre les deux, c'est compliqué, et en tout cas, maintenant que les deux sont là, je peux pas en dire, j'en ferme une, je transfère tout, faudrait que j'en fasse tout, enfin, perte de référencement. Donc pour l'instant, on va laisser comme ça. Bon, le problème, c'est que d'avoir deux chaînes YouTube et les hésitations qui vont avec, font que ben je ne publie pas de vidéo en ce moment. Voilà, donc ça, c'est quand même un problème. J'en ai une, hein, qui est en stock, qui est dans les RDM, il faut que je fasse la fin de la vidéo. Mais je publie pas de vidéo, alors que je vous avais dit il n'y a pas longtemps que je publierai plus de vidéos. Ensuite, maintenant, il y a d'autres questions. Par exemple, c'est comment utiliser Instagram pour mes activités de coaching, podcast, de business, c'est-à-dire des sujets dont je vous parle là, tout de suite. Alors, ça serait de dire, est-ce que je compte créer un compte Instagram dédié à ça? J'avais déjà créé Podcaster Pro, je me dis ça m'ennuie un peu. Est-ce que j'en parle dans mes stories? Est-ce que je dédie un post par semaine ou deux à ce sujet-là? Est-ce que je mélange un peu tout? Là, c'est quand même un petit peu tendu parce que mon compte quand même grossit assez vite. Je suis très content, hein, j'ai pas fait les statistiques de début d'année, de fin d'année, mais on va pas dire que j'ai doublé la taille de mon compte Instagram, mais peut-être pas loin, peut-être pas si loin que ça. En tout cas, les derniers temps, j'ai gagné un bon millier d'abonnés par mois, à peu près, hein, sur les 2-3 derniers mois. Donc, c'est pour ça que je dis, c'est pas impossible que j'ai doublé la taille du compte Instagram. Donc, cette dynamique-là, je vais pas la casser. Elle est un très bon support de ce que je fais sur Kimet42, de sport et nutrition, les podcasts plutôt sport. C'est un très bon complément de ça. D'ailleurs, ça me montre encore une fois que d'aller à 100% dans le sport est aussi une décision que j'avais prise et qui m'a permis d'avancer beaucoup plus vite sur certains sujets. Bien sûr, là, j'ai envie de vous parler un peu des coulisses, donc j'ai relancé ce podcast. Mais c'est vrai que j'ai toujours un petit peu cette envie d'aller à 100% dans le sport. Mais à chaque fois que je vais 100% dans le sport, il y a toujours quelqu'un qui me dit mais comment t'as fait pour lancer ton podcast? Tu pourras pas m'aider, tu pourras pas me donner un coup de main, etc. Donc il y a quand même, plus le podcast grossit, plus les podcasts de sport grossissent, et plus en fait j'ai des demandes de personnes qui me demandent comment j'ai fait. Et donc c'est logique en fait d'avoir un peu ces deux casquettes. Et je vais franchement, j'ai lutté contre pendant tellement de temps. Si vous avez écouté mon podcast privé, pour ceux qui étaient abonnés sur Patreon, vous le savez, j'ai lutté tellement de temps contre ça que maintenant j'ai décidé d'arrêter de lutter contre ça. En revanche, ce que je peux faire, c'est que plutôt que d'avoir deux comptes Instagram, je me dis, je peux avoir un compte Instagram qui est plutôt lié sport, et puis mon compte LinkedIn qui est plutôt lié univers du podcasting, on va dire comme ça, parce que je pense que c'est peut-être aussi un axe qui est intéressant à creuser sur LinkedIn, et comme ça, ça me donne une thématique sur LinkedIn, ça me permet aussi finalement d'avoir des contenus sur LinkedIn, de pas d'être redondant à droite à gauche, d'avoir des sujets un petit peu dont je peux parler. Et en fait, ça contente un petit peu mes envies de parler de différents sujets. Et ça, c'est quand même, me contenter moi-même, c'est un truc qui me fait bien plaisir. J'en ai besoin, hein, d'être fier de ce que je fais, d'être content de pouvoir parler, de pas me sentir frustré. Donc, j'ai besoin de ça. Alors, bien sûr, ça veut dire que ça limite un petit peu les manières dont on peut parler, parce que LinkedIn, il y a beaucoup de textes, on peut faire des carousels, on pourrait faire des petites vidéos. Je me dis, je pourrais faire des réels qui partirait pas sur Instagram, ou alors quelquefois de temps en temps sur Instagram. Mais si j'ai fait moins de 60 secondes, ils peuvent partir sur ma chaîne YouTube. Donc ça solutionne en partie un problème de ma chaîne YouTube, qui je pourrais remplir en fait avec des petites vidéos de 60 secondes. Quand j'ai un truc à dire, avant je les faisais pour un réel, je pourrais faire pour un short sur Instagram, sur YouTube. Donc à la limite, ça peut me contenter, mes petites envies, mes petites frustrations. Donc peut-être, hein, que je vais régler ça comme ça. Donc, pour l'instant, j'ai double ration de YouTube, à voir comment ça va se passer. Mais je n'ai plus double ration de mail, puisque maintenant, donc, la newsletter du dimanche qui était sur Substack est partie sur Podia. Donc, j'ai tout mixé dans une seule. Au passage, ça m'a fait grimper d'un échelon, là, le coût de la plateforme. Pas beaucoup de choses, hein. Franchement, ça m'a obligé à passer un cap au niveau des abonnés. Ça m'augmente un petit peu le coût mensuel, mais c'est franchement, pour le temps gagné à côté, c'est le genre de truc, on se dit oui, je vais pas mettre 5€ de plus et tout, puis on dit à la fin de l'année, oui, 5 x 12, ça fait quand même 60€. Ouais, mais 60€ finalement par rapport au temps de travail, par rapport au gain de temps, par rapport à la clarté d'esprit, c'est que dalle. C'est rien. C'est, franchement, c'est rien, cette histoire-là. Hein, c'est tout simple. C'est comme investir dans ChatGPT. Enfin, investir, s'abonner à ChatGPT. J'avais hésité. J'étais décidé à pas investir dans ChatGPT. Parce que j'ai fait plein de trucs dans ChatGPT. Je me suis dit, ah, je pourrais faire ça. Ça me permet quand même de gagner beaucoup de temps si je regarde le temps que je gagne sur ChatGPT. Et ben, vous savez quoi? ChatGPT, pour l'instant, l'abonnement plus, il est en suspens. Je suis en waiting list. C'est-à-dire que je peux pas m'abonner, sur ChatGPT plus. Bon. Tant pis, hein, c'est comme ça, ils ont fait des grosses annonces, il y a beaucoup de gens qui sont venus, il faut qu'ils augmentent l'infrastructure a priori, enfin voilà, il y a des choses comme ça. Mais voilà, ça fait partie des outils des fois, hein, de dire, ben, en utilisant un outil, je gagne tellement de temps que finalement le coût est vite absorbé. Et il y en a un qui m'a fait gagner beaucoup de temps aussi, c'est MiniChat. Et là, il faudra que je vous en reparle de MiniChat, parce que MiniChat, c'est ce qui me permet de transformer mes abonnés de mon compte Instagram en contact mail, hein, par le biais d'automatisation. Là aussi, il y avait un truc, hein, c'est que si j'avais deux comptes Instagram, il fallait que j'ai un compte MiniChat plus gros, plus cher. Si j'ai qu'un seul compte Instagram, c'est plus facile à gérer. Voilà, tout un tas de petits trucs en cascade, là, comme ça, qui se passent par cette décision-là. Alors maintenant, on va voir si je m'y tiens. En tout cas, c'est mon ambition, c'est d'être dans cette ligne-là, c'est-à-dire que ce que j'applique dans mon assiette, l'appliquer aussi dans mes contenus, dans mes espaces d'expression. On verra combien de temps ça tient. Vous savez que des fois, ça change un petit peu avec moi. Mais c'est comme ça. Ensuite, j'ai pris une autre décision. En 2024, je ne vais plus acheter de formation, mais décaler les budgets de mes formations sur du coaching. Alors ça, c'est une grande décision qui était que ça fait un bout de temps que ça me tourne en tête. Alors, je sais pas si j'avais raconté ça ou pas. J'étais en contact avec des personnes sur du coaching, pour prendre du coaching sur certains sujets sur lesquels j'ai le sentiment que je n'avance pas. Et en même temps, j'avais pris des formations pour avancer sur certains sujets. Par exemple, du copywriting, des techniques de vente, etc. Un sujet qui m'intéresse depuis je ne sais pas combien de temps, depuis des années. Et je pense que j'ai beaucoup progressé en copywriting. J'en ai fait beaucoup, d'écrire des pages de vente. Bon, j'ai plein de tactiques, plein de techniques. Il y a des trucs qui me plaisent pas du tout. Il y a des trucs qui me plaisent bien. Vous savez, c'est un petit peu le côté de dire, oui, mais là, je passe pas en marchant de tapis. Là, je fais un peu voleur en faisant ça, etc. Donc là, voilà, je me suis un peu assagi un petit peu là-dessus. J'ai fait ma propre philosophie autour de l'écriture des pages de vente, même si des fois on me dit, t'es pas assez pushy, tu devrais y aller un peu plus fort. Tu devrais mettre un peu plus en avant les bénéfices, mettre en avant ça, faire ça un peu plus, etc. Oui, c'est vrai, mais je progresse petit à petit quand même là-dessus. Hein, ça avance mieux, je vois les résultats de certains programmes, je vous l'ai dit, ça va mieux quand même. Donc, là-dessus, hein, je me suis quand même un petit peu amélioré, je me suis un peu botté le cul, hein, sur des choses en disant oui, bah, écoute, faut que tu mettes en avant les bénéfices différemment, faut que tu fasses ça différemment, faut que tu ailles plus vite là-dessus. J'utilise ChatGPT aussi pour créer certaines choses que je trouve tellement pénibles à faire, comme les listes des fonctionnalités. Moi, la liste des fonctionnalités, je l'ai dans mon coin. Je lui demande juste de me les réécrire en faisant des petites listes à puces. Ça me fait gagner du temps, ce qui me permet de travailler un peu plus sur la partie plus intéressante au début, hein, qui est la formulation de l'offre, etc. Donc, par exemple, bah, en copywriting, maintenant, quand je regarde les formations qui me passent, je reçois de temps en temps, je me dis, ça me sert à rien. Des fois, je suis tenté, j'en vois une passer, je me dis, ah bah tiens, je vais essayer de voir ce qu'il y a dedans. Et puis, en général, je suis très déçu. Et dans plein de sujets, en fait, je suis assez déçu dans les trucs de vente, dans les trucs de marketing. Certaines personnes arrivent quand même à proposer des choses qui m'ont permis d'avancer beaucoup, hein, par exemple sur le tracking un petit peu de mon temps, pas trop de mon temps, parce que ça, je le faisais déjà longtemps, mais tracking un petit peu de mon chiffre d'affaires, etc. Enfin voilà, tout ça, il y a des choses sur lesquelles j'ai quand même appris des choses. Il y a beaucoup de formations qui ne me font pas avancer, c'est-à-dire que en fait, je suis globalement souvent déçu, en fait, par plein de choses que j'ai pu acheter, et je me dis, j'ai besoin de plus que ça. Mais surtout, j'ai besoin d'accompagnement, c'est-à-dire que c'est bien d'avoir le contenu, c'est bien d'avoir des livres, c'est bien d'avoir des formations, c'est bien d'avoir plein de choses, mais il y a des moments quand même, j'aimerais bien pouvoir discuter avec quelqu'un, avoir un peu le retour, discuter avec quelqu'un, échanger. Comme ceux que je coach dans certains domaines ont besoin de mon retour sur ce qu'ils font, et ben moi j'ai besoin d'avoir du retour sur ce que je fais. Et donc c'est un peu ma recherche, je pense, sur 2024. Ça va être de limiter mes achats de formations et probablement aussi beaucoup de livres pour investir sur du coaching. Et là, j'ai fait un petit peu l'état des lieux. plusieurs fois, je me suis dit que je pouvais pas prendre du coaching parce que j'avais pas les budgets, que ça faisait cher, parce que les personnes que j'avais envie d'avoir qui m'intéressaient, parce que il y a pléthore, hein, il y a vraiment pléthore. Et donc j'ai eu des discussions avec plusieurs closers de certaines coachs, etc. Il y en a certains qui, je trouve que, enfin franchement, c'est un peu bullshit. Voilà, voilà, faut dire ce qui est. Il y en a certains dont j'aime bien l'approche, certains dont j'aime bien l'approche du coach principal, mais après on se rend compte que c'est pas lui qui coach. Moi j'aimerais bien parler avec le coach principal sur des choses, donc c'est souvent la question qui peut se poser. Il y en a dont les techniques me plaisent, des techniques qui me plaisent moins, etc. Donc il y a des choix qui sont faits comme ça, mais souvent en fait je me disais ouais, mais quand même ça fait des sommes qui sont souvent assez importantes, et j'ai pas trop les budgets pour le faire. Et puis finalement après, quand je regarde entre des formations, entre les livres, entre tout un tas de choses que j'ai pu acheter, je me dis que probablement, je dois pouvoir avoir le budget. Et puis que si je continue à vendre un peu plus de mes formations, de mes programmes et de mes coachings, le budget, je pourrais tout simplement me le créer. Et ouais, c'est le grand but de 2024 en fait. C'est le coup d'accélérateur, j'ai envie de le mettre là-dessus. C'est-à-dire d'aller chercher d'une part dans certains trucs que j'achète jusqu'à maintenant, que je n'ai plus besoin d'acheter en fait, que je vais considérer, ça ne sert plus à rien que je les achète. Donc, je récupère du budget. Et puis, je vais augmenter mon budget par plus de ventes, par la progression de mon chiffre d'affaires. Et pour avoir, justement, aller vers quelqu'un qui pourrait m'aider en coaching. Alors, je l'avais vu hein, déjà, j'ai fait un mastermind l'an dernier sur la marque. J'en ai discuté avec certains. J'ai eu une mauvaise expérience du coaching avec un coach qui m'a laissé un peu en plan à une époque. Et puis, avec lequel il y a toujours un contentieux juridique. Parce qu'en fait, il a fait une facture d'avoir sur un truc. On a dit on arrête. Il me dit bon, d'accord, paye pas la fin, etc. Sauf qu'il devait me faire une facture d'avoir qu'il s'est planté dans la somme. Ça fait 2 ans peut-être que maintenant j'attends que ce truc, cette formalité juridique soit terminée. Parce que moi, comptablement, ça pose problème. Mais lui, il s'en fout totalement. Donc, il y a aussi ça un petit peu, ce frein. Hein, c'est-à-dire que les autres payent un peu pour lui. Bref, et en plus, hein, ce que lui ne fait pas sur le plan purement légal, c'est-à-dire juste de faire un avoir à la bonne somme, me bloque la somme qui permettrait d'avoir un coach, un autre coach. Donc voilà, on paye un peu pour tous les mauvais garnements, les mauvaises pratiques. En tout cas, ça fait partie de mes décisions de 2024. On va voir aussi après hein, comment je m'y tiens, de quoi j'ai besoin, etc. Je dis pas que s'il y a un programme qui m'intéresse vraiment sur certaines choses, je n'irai pas. Mais je pense qu'il y a plein de formations que j'ai achetées jusqu'à maintenant dont je n'ai vraiment pas besoin. Je n'ai plus besoin de ça. J'ai besoin d'autres choses. Voilà, j'ai besoin d'autres choses. Ça me fait aussi réfléchir sur ce que je propose moi. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un temps où on peut faire des choses par les formations, par les livres, par le gratuit aussi, par beaucoup de choses. Et puis, à un moment donné, il y a une étape à passer où il faut quelqu'un qui nous fasse du retour, qui nous fasse du feedback, qui nous botte un peu le cul de temps en temps. C'est ce que je vais rechercher sur l'année 2024. Bon, tiens, en parlant de formation et de garnement, j'ai eu quand même une... Je sais pas comment alors, je vais pas dire le nom du formateur. J'avais eu... acheté une formation à un moment donné chez un formateur, puis d'autres formations, puis dans son catalogue de formation. À un moment donné, il y a une formation qui m'intéressait beaucoup. Et enfin, moi, j'ai appuyé sur le bouton, quoi. Je l'ai prise. Ça s'est ajouté à mon catalogue. Et il semblerait qu'en fait, au moment où je l'ai prise, d'après les équipes du formateur, je n'ai pas payé cette formation. D'après eux, je n'ai pas payé cette formation. Moi, j'appuie sur le bouton. J'ai suivi toutes les étapes du formulaire. Et donc, j'ai la formation dans mon catalogue. Et l'autre jour, il m'envoie un mail en me disant... Donc, ces équipes me disent, voilà, on pense que tu n'as pas payé cette formation-là, que tu n'y as pas à avoir accès, donc on te l'enlève de ton catalogue, de ton accès et tout. Et est-ce que ça... Mais par contre, on te fait une réduction de 50% si tu veux l'acheter. Et je dis, mais en quoi vous pouvez venir chez moi chercher mes affaires, en fait? Alors, ils m'ont dit, si, c'est pas normal que toi tu aies accès, si tu n'y as pas payé, que les autres l'ont payé, et ils ont payé pour avoir accès et tout. Et je dis oui, mais c'est pas ma faute en fait. C'est-à-dire que moi j'ai appuyé sur les boutons, j'ai suivi le processus, et dans le processus j'ai cette formation qui est venue. Je dis peut-être d'ailleurs qu'elle était offerte dans un programme, qu'elle était offerte par rapport à un truc que j'avais acheté, etc. Je dis je me rappelle pas, je sais pas à quel moment elle est arrivée. Je dis mais franchement, si vous étiez des boulangers, que je viens chez vous, j'achète du pain et que vous me demandez 3 € pour acheter mes baguettes de pain et que vous vous rendez compte qu'en fait j'aurais dû payer 4,50 €. Je pense quand même que, au bout d'un moment, vous n'allez pas revenir chez moi, ouvrir la porte de ma maison, venir sur la table, chercher le pain et repartir avec. Ça me semble quand même logique. Donc là, vous permettez des choses parce que c'est dans l'espace de formation de venir chercher quelque chose. Je dis, faudrait peut-être aussi être responsable de ce que vous faites. En plus, la personne en question prône le fait qu'il faut aller au bout de ses idées, qu'il faut ne pas se laisser marcher un peu sur les pieds, qu'il faut tenter des trucs, quand contester un peu ce qu'on, les choses. Ben voilà. Ben je lui dis, écoutez, j'applique exactement les consignes de votre patron et je vous demande juste de me remettre la formation. Alors, est-ce qu'elle va revenir ou pas? Je n'en sais rien. Toujours est-il que ça fait aussi un espèce de frein, vous voyez, dans l'esprit, me dire mais finalement à tout moment la personne peut décider de venir chercher un truc. Alors si j'avais acheté, alors elle m'a dit oui tu peux rechercher dans tes mails voir si c'est le facture etc. J'ai dit franchement si j'ai le temps je le ferai, mais là aujourd'hui j'ai pas le temps de le faire et je trouve que le procédé en lui-même est cavalier. Je dis c'est plus pour le procédé que ça m'énerve. Je dis moi franchement si je fais cette erreur là bah vous assumez votre erreur. Si c'est une erreur, vous assumez votre erreur. En tout cas, en tout état de cause, je trouve que la manière dont vous avez fait est une erreur. Et j'aurais dit très clairement que c'était une erreur. Et je l'aurais dit, je me battrai pour ça. Je me battrai sur ce principe-là. Et donc, je vous donnerai des nouvelles ensuite de ce qui s'est passé ou si ça a bougé, pas bougé ou pas. Enfin, pour terminer, je dois vous dire que j'ai de nouveaux programmes qui vont arriver très vite et j'ai une petite idée dans ma tête, un truc qui est arrivé. Je ne sais pas si vous le savez tous, mais je travaille moi avec un bullet journal pour faire mon planning. Alors, j'ai testé toutes les applications de planning, hein, toutes les applications de planning, j'ai toutes testées, tous les agendas, tous les trucs, etc. J'adore Fantastical sur mon Mac pour gérer l'agenda. J'adore Things. J'ai essayé Todoist, j'ai essayé T2, j'ai essayé OmniFocus. Bref, toute la saga Omni. Enfin, j'ai payé des licences pour plein de logiciels, etc. Et je me rends compte qu'en fait, ce qui marche le mieux pour planifier ma semaine, c'est quoi? C'est un cahier, un bullet journal, dans lequel je fais des colonnes, je dessine mes semaines et hop, j'écris les trucs de quand je fais telle ou telle chose. J'ai aussi dans mon agenda numérique des créneaux qui sont réservés, parce que pour réservation de podcast, etc., pour qu'il n'y ait pas des rendez-vous qui se chevauchent. Mais pour planifier ma semaine, tous les dimanches soirs, je fais mes petits tableaux, je fais mes trucs comme ça, etc. Et je planifie ma semaine de cette manière-là. Et l'autre jour, quand même, je regardais mon truc et je disais, c'est quand même couillon que toutes les semaines... Tu fasses ton petit cahier, tu prends tous les mois, alors chaque début de mois, je commence à lancer mes trackers, quels sont mes objectifs de la semaine, les objectifs du mois, et puis après je les décline en objectifs de la semaine, je décline aussi mes trackers, est-ce que je mets un tracker de sommeil, un tracker d'activité, je décline ensuite mes semaines, je dessine mes semaines, je mets mes tâches, je repercute mes tâches que j'ai pas faites, ce que je dois faire, mes rendez-vous et tout. Et ça me fait faire des petites colonnes et tout, des petits dessins. Et l'autre jour, je me suis dit, mais... C'est quand même très couillon ton histoire, c'est que si tu te faisais ton propre cahier qui serait imprimé, dans lequel tout ça, ça soit déjà fait, puisque tous les mois tu fais la même chose. Alors, j'ai une idée. J'ai une petite idée comme ça de me dire, je vais me faire mon cahier. Effectivement, je vais me faire mon cahier. C'est-à-dire que je vais reprendre les modèles, et puis les modèles existent. En plus, probablement, je les ai déjà faits quelque part. Où est-ce que je les ai faits? Dans mon programme Planifier votre année. Chaque année, vous savez, j'ai un truc qui s'appelle Planifier votre année, je relance. Alors, si vous ne le savez pas, maintenant vous le savez. Planifier votre année, c'est comment planifier l'année qui vient. Et j'ai fait un cahier d'exercice dans lequel je partage justement les modèles que j'utilise moi pour traquer mon sommeil, mes tâches et ma semaine. Et donc je me suis dit, j'ai déjà les modèles. Si je me débrouille bien, si mon calcul est bon, je fais... Alors je sais pas, j'ai pas calculé de page. Je prends, j'assemble tout ça, je fais, je multiplie les doubles pages par semaine, etc. Je fais par des mois, je mets les petits numéros de jours et autres. Et si je me débrouille bien... À la fin, comme ça, en quelques temps, j'ai un cahier que je peux imprimer et que, au lieu de faire toutes les semaines mes petits dessins, mes petites colonnes et tout, toute l'année 2024, je remplirai ça. Et puis au début, je marquerai les mots qui vont guider mon année, mes objectifs de l'année, mes objectifs de moi, comment les décliner, quels sont les grands événements et tout ça. Et là, je me suis dit quand même, ça ressemble beaucoup à mon programme Planifier votre année. Alors, j'ai décidé déjà de faire mon propre cahier. Et comment je vais le faire? Donc, je vais faire mon cahier et je vais le mettre sur Amazon KDP. Et Amazon KDP, vous savez, c'est l'impression à la demande. Et je me suis dit, je vais faire un cahier d'exercice comme ça et je vais mettre sur Amazon KDP. Ça sera mon cahier, propre bullet journal. Même si personne ne l'achète, je pense que je dois pouvoir payer mon propre cahier moins cher que d'acheter un cahier vierge et faire les dessins dessus. Donc, déjà, pour moi, ça me servira. Si maintenant, ça vous intéresse, vous aussi, je me dis que peut-être, ça pourrait vous, un truc qui pourrait vous servir. Et si je prolonge un petit peu les choses, je me dis que en mettant au début un petit peu la méthodologie, en mettant peut-être un QR code pour amener sur la méthodologie, comment on définit les trois mots. Ben, en fait, ce que je fais dans le programme Planifier votre année, ça pourrait être un bon produit, un produit que je voudrais tester et que je vais mettre en place, donc que je voudrais tester. C'est-à-dire en fait un cahier qui permet d'organiser son année avec les grands objectifs, les objectifs mois par mois, les trackers, la semaine, dessiner sa semaine, etc., ce qu'on va faire dans la semaine, dessiner sa journée, parce que moi dedans je mets les zones, à quel moment je fais telle ou telle chose, et puis avoir ensuite des bilans, enfin pouvoir faire des bilans, expliquer comment on remplit ça, et lier ça avec, avec ce fameux programme Planifier votre année. Bon, ben voilà, donc là il y a une offre qui me semble pas mal à faire. Alors, dans mon histoire de ne pas avoir plusieurs plateformes, c'est un peu compliqué, parce que je pourrais faire ça en format téléchargeable ebook. Mais en soi, c'est ça, imprimer 200 pages sur une imprimante, je trouve que c'est pas très rentable. Donc, je préfère faire ça sur KDP. Donc, ça va obliger en fait à faire un petit tour de passe-passe. Mais j'ai peut-être un petit plan. Ça, je suis en train de réfléchir à ça. Et en tout cas, ça n'empêche que le programme Planifier votre année 2024, lui, va arriver très rapidement. Il sera dans la lignée de ce que j'avais fait les autres années. Je suis en train de planifier un petit peu, de calculer un petit peu l'offre qui va aller avec. Il y aura aussi ce fameux bullet journal qui va arriver. Dites-moi si ça vous intéresse, hein. C'est vraiment un bullet journal. Alors je me dis, je pourrais mettre quelques citations, vous savez, mes petites citations papillotes pour ceux qui ont l'habitude de savoir ce que je fais. Et puis, ce que je pourrais faire aussi en, ce que je vais faire aussi en complément. Et là, ça, c'est une nouveauté. C'est qu'il y aura un truc aussi pour la partie sport. Il y aura planifier votre année sportive. Où là, j'ai une méthode sur comment on planifie son année sportive. Les grands objectifs, les objectifs intermédiaires, les entraînements, les périodes de repos, tout ça. Avec une méthode. Et là, je ferai pas un cahier pour ça, hein, je ferai un petit workbook comme j'avais fait avec des petites vidéos. Et tout ça, en fait, ça me permet de packager les produits sur la fin de l'année. Donc, si cela vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, à me dire si ça vous intéresse, à me faire des retours, à me dire un petit peu ce que vous en pensez. Si vous avez suivi les programmes Planifier votre année des années précédentes, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ce qu'il faudra rajouter. Il y a des années, j'ai mis des masterclass en plus, des lives et tout. Qui s'était transformé en coaching individuel parce que des fois j'avais qu'une seule personne. J'ai testé plusieurs formats un petit peu, donc je teste. J'ai vu des gens qui font des planeurs numériques sur iPad. Moi je suis pas super fan du planeur numérique sur iPad. J'en ai un. Le pire c'est que j'en ai un. Je suis pas super fan et j'aime bien avoir ce truc cahier carnet. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais en tout cas, si c'est le genre de projet qui vous intéresse, si ce genre de produit vous intéresse, n'hésitez pas. Vous pouvez m'envoyer un petit message, me dire un petit peu ce que vous attendez, comment vous imaginez un petit peu vous les choses, comment, quels sont les outils que vous utilisez aussi. Et puis vous allez voir que tout ça va arriver très rapidement. Je vous en tiendrai au jus. En tout cas, je vous ai donné un peu plus que les coulisses. Hein. Là, on est vraiment, vous ici, on est vraiment dans les coulisses. Donc, vous avez compris un petit peu. Hein, je vous ai donné ma simplification de mon business, comment je vais simplifier surtout mes plateformes. Et pour ceux qui me connaissent, vous savez qu'il y a toujours une phase d'expansion. Et puis ensuite, au bout d'un moment, je coupe les branches et puis je reviens, je reminimalise. Et puis après, ça repart dans un autre sens. Cette fois-ci, je vais appliquer une règle pour que ça ne reparte pas, que ça ne grossisse pas à fond. Et c'est lié à tout ce que je vous ai raconté les semaines précédentes. Je vais plutôt aller aussi sur du coaching plutôt que d'acheter des formations et trop de livres. Ça, c'est une grande décision. Ça, franchement, ces deux décisions-là, si sur l'année 2024, j'arrive à les tenir, je pense que j'avancerai beaucoup. Et puis, on va voir un petit peu ce qui va suivre aussi sur cette histoire de formation que je voudrais bien récupérer et sur ces nouveaux programmes que je vais lancer. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Merci aussi pour vos commentaires, pour vos retours, pour vos messages qui me font toujours très plaisir. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Je vais essayer de retrouver un rythme plus calé sur les sorties d'épisodes. Mais en tout cas, ce qui m'intéresse, moi, c'est d'abord que l'épisode sorte, vous faire le bilan, vous expliquer un petit peu tout ça. Même si c'est un peu tangent sur les jours de sortie, c'est plus aussi régulier que ce fut à l'époque. En tout cas, moi, j'adore vous partager ça parce que je trouve que c'est aussi la plus-value hein, de mon expérience. J'ai vu quelqu'un l'autre jour qui disait un couple de formateurs, enfin un groupe, un couple, ils sont deux formateurs qui se mettent ensemble. Ils disaient, à nous deux, nous avons 7 années d'expérience en création de contenu. Donc, on vous livre nos 7 années de cumulé de création de contenu, d'expérience en création de contenu. Et moi, j'étais en train de calculer mon truc. Mais moi, les 7 années, je les ai plus que tout seul. Et je me dis, j'en parle pas assez, je monte pas assez. Et c'est aussi ce que je fais dans ce podcast, c'est de vous donner l'expérience que j'ai moi. C'est pas 7 années, c'est pas 10 ans, c'est pas 12 ans, c'est pas 15 ans. Mon premier site internet, il date de 1996. Et oui, 1996. J'ai des sites qui ont eu 17 ans de vie. Mon blog a plus de 15 ans, peut-être. Donc, autant vous dire que j'aimerais partager ça. Et vous dire que malgré cette expérience-là, on apprend tout le temps des choses, tout le temps des choses. Donc si vous êtes au début du parcours, ne soyez pas impressionné par ces années, par ce nombre d'épisodes, etc. Il faut toujours commencer. On commence toujours par quelque chose. avant d'avoir 1200 ou 1300 épisodes de podcast en expérience, il y a un jour où je n'osais pas lancer le premier épisode, l'épisode 0. Donc c'est comme ça. On passe tous par là, mais le fait de vous partager mon chemin, j'espère en tout cas vous permettre d'avancer plus vite sur certaines prises de réflexion, sur certaines choses que vous voulez faire et vous aider à aller plus vite et de faire les choses d'une manière qui vous corresponde vraiment et qui vous décomplexe aussi sur des choses en vous disant, ben voilà, et en fait, vous voyez tout, on peut tout faire, quasiment tout faire, tout marche, mais on peut pas tout faire en même temps. On peut pas tout faire tout seul dans notre coin. Il faut privilégier notre énergie, comment on dose un petit peu tout ça. Et c'est ce que je voudrais aussi vous expliquer. Et c'est pour ça que c'est important pour moi de, quand on privilégie son énergie, quand on essaye de dire, ben, j'ai pas beaucoup de ressources, qu'est-ce que je fais de ces ressources-là? Eh ben, ça amène les décisions que je vous ai données sur le coaching, sur minimaliser ma présence, sur limiter le temps de présence sur certaines choses et pour arriver justement à avoir cette démarche entrepreneuriale, de ne pas être juste un créateur mais vraiment être un entrepreneur. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous une très 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 belle fin de semaine et on se retrouve très vite. Ciao, ciao!
Ever googled your own name? Prepare for a shock because your personal info, including addresses and phone numbers, is out there. Especially with the recent hacks at some big phone and healthcare companies. But here's where Aura steps in. Aura scans the dark web for your sensitive information and sends real-time alerts. Aura also actively requests that your information be removed from data broker sites, putting you back in control. Aura provides you with a complete online safety toolkit, credit and transaction monitoring, a secure password manager, a privacy-enhancing VPN, and more. Try Aura risk-free with a 14-day trial at aura.com/safety. That's aura.com/safety. Rest easy with Aura. Visit aura.com/safety today.